L'imprévu a du charme, et ça tombe bien, puisque la tribu te propose tout de suite une émission spéciale.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Élise et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce troisième rendez-vous avec la classe Kézako du collège Albert Vincent. Ils sont tous là, ils sont fin prêts pour m'accompagner. Arthur, Gabriel, Romane, Suzanne, Charlotte, Benny, Yuna, Nino, Lily, Jeanne, Liam, Enzo, Marie, Lucia, Maxime, Paulina, Ewen, Baptiste, Tom, Inès, Aristide, Shana, Jamily, Sarah, Enzo et Achille, mais aussi Chanel et Linette qui vont tout de suite nous dire ce qui nous attend pour cette nouvelle émission.
Bonjour, moi c'est Chanel et je suis en compagnie de Linette. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cette troisième émission de radio. Un programme encore très varié avec de nombreux sujets choisis par la classe 6e Kézako. Voici le programme.
Arthur, Gabriel et Roman ont choisi de vous présenter les trois sports méconnus et très originaux.
Suzanne et Charlotte ont, quant à elles, enquêté sur les réseaux sociaux et la place qu'ils prennent dans nos vies.
Suite à la réouverture des cinémas, Benny et Yuna ont invité Madame Avignon, directrice du Cinéville, et Nino et Lily Jeanne ont eu envie de vous parler des effets spéciaux au cinéma.
Liam et Enzo se sont demandé quel impact avait le port du masque chez les jeunes enfants. Lucia et Marie vous parleront de la situation difficile des enfants dans le monde. Maxime et Paulina en ont profité pour inviter un jeune qui s'est engagé dans l'ONG Amnesty International.
Tom, Baptiste et Ewen vous présenteront leur coup de cœur culture, puis ils vous emmèneront voyager, d'abord à Paris avec Inès qui vous racontera l'histoire de la Tour Eiffel, ensuite la forêt amazonienne avec Jamily, puis avec l'Antarctique. Sarah vous parlera des dangers qui menacent les ours polaires. Et enfin, nous finirons ce voyage avec Aristide Chana et les 7 merveilles du monde moderne.
Et comme à chaque fois, la chronique média clôturera l'émission. Cette fois-ci, c'est Enzo et Achille qui vous parleront des images manipulées sur Internet.
Voilà, vous savez tout. Maintenant, c'est l'heure de débarquer avec nous pour cette nouvelle aventure. À toi, Élise.
À moi, et ça va être rapide, hein, juste le temps d'accueillir comme il se doit Arthur, Gabriel et Roman. Bonjour messieurs, ça va ?
Ouais.
Oui.
Bon, eh bien parfait. Alors vous allez nous parler de sport, mais pas de foot, de rugby, de hand, d'athlétisme ou autre tennis. Non, vous avez choisi de nous présenter des sports beaucoup, beaucoup moins connus, mais aussi plus originaux.
Bonjour, je vais vous présenter le caninop, un sport méconnu mais très original. Le caninop est une discipline sportive pour lapins où ils doivent effectuer une série de sauts avec des obstacles. L'objectif est de franchir le plus d'obstacles sans en faire tomber les barres en un temps limité. D'ailleurs, Élise, j'imagine que tu te demandes qui a pu inventer un sport pareil.
Oui, justement, je me demandais ça.
En fait, ce sport pour lapins a été créé par un groupe d'amis suédoises dans les années 1970. Elles ont eu l'idée de fabriquer de petits obstacles pour leurs petits compagnons poilus. Ce sport est très répandu en Suède, au Danemark, en Suisse, en Allemagne et depuis peu en France. D'ailleurs, le nom de cette discipline vient des mots suédois « kanin » signifiant « lapin » et « hoppa » signifiant « sauter ». Dans les pays nordiques, les compétitions et les concours sont assez fréquents. Et enfin, pour ceux qui ont envie d'essayer ce sport avec leur lapin, de nombreuses vidéos sur YouTube expliquent comment le pratiquer.
Et c'est là que je suis déçue de ne pas avoir de lapin, mais ce n'est pas grave, peut-être que je vais trouver mon bonheur du côté du sport que Gabriel va nous présenter.
Je vais vous parler d'un sport méconnu qui s'appelle l'orteil de fer. Le bras de fer, vous le connaissez tous, n'est-ce pas ? L'orteil de fer, c'est la même chose. Le concept est né en 1974 par 4 amis anglais. Chaque année, des championnats du monde sont organisés en Angleterre avec une dizaine de participants. Les compétiteurs retirent leurs chaussures et chaussettes, puis tendent leurs jambes sur le podium, c'est l'arène sur laquelle ils s'affrontent. La compétition se déroule en deux manches, sans limite de temps. Le concept est un peu le même que le bras de fer gros orteil contre gros orteil. Les concurrents doivent faire souffrir le pied de leur adversaire pour qu'il touche l'une des planches du podium. Aucun risque de maladie, tout est examiné par un podologue qui regarde s'il n'y a ni maladie ni mycose. Toutefois, au long terme, les lutteurs peuvent souffrir d'ecchymoses ou de foudures. Dans les cas les plus graves, ils peuvent se faire fracturer ou se casser un orteil. En 1997, les organisateurs du championnat ont demandé son inscription aux Jeux Olympiques, mais la demande est refusée. Ils nous ont demandé bien à notre prof de EPS si on pouvait essayer ce sport.
Oui, on va faire ça, hein, parce que j'avais pas de lapin, j'ai bien des gros orteils, mais on va dire que vous allez essayer et vous me raconterez, parce qu'avec tous les risques que tu as énumérés, je me dis que ça me semble pas bien sérieux, vu mon grand âge, on va pas prendre de risques. Donc vous essayez, vous me raconterez, d'accord? Ouais. Oui, ouais. Mais je ne perds pas espoir, hein, je vais peut-être avoir plus de chances de trouver le sport de ma vie grâce à toi, Romane.
Oui,
j'espère.
Moi, pour finir, je vais vous présenter un sport très particulier, le sepak takraw. Il est pratiqué essentiellement en Malaisie et en Thaïlande. C'est le sport officiel et signifie coup de pied-balle. Il s'agit d'un sport qui ressemble au volley. Il consiste en un affrontement de deux équipes de trois joueurs répartis de chaque côté d'un filet. Les joueurs doivent marquer comme au volley-ball, mais ils n'ont droit de marquer qu'avec leurs pieds, leurs genoux ou leurs mentons. Ce qui donne un sport très athlétique. Le sport n'est pas encore mixte. Les femmes le pratiquent avec une balle plus grosse et plus légère. Le sepak takraw est aussi pratiqué en France, mais dans seulement 5 clubs. On ne connaît pas vraiment ses origines, mais ce sport existe probablement depuis des siècles.
Eh ben, à voir. Je sais pas s'il y a un club près de chez nous, c'est ça le problème. 5 en France, ça fait peu. C'est pas que je voulais pas, hein, vraiment. C'est que non, les éléments sont contre moi, hein, c'est comme ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces découvertes. Ça permet de nous rappeler qu'il y a forcément un sport quelque part qui est fait pour nous, hein, qui nous convient. Et on va maintenant changer complètement de sujet. Instagram, TikTok, Snapchat ou encore Facebook, ça vous dit forcément quelque chose. Eh bien, Suzanne et Charlotte se sont interrogées sur leur dangerosité potentielle.
Bonjour, nous allons vous parler des réseaux sociaux car nous trouvons ce sujet important et nous souhaitons vous faire partager nos recherches pour que vous soyez davantage prudents.
Les réseaux sociaux sont des applications qui permettent de communiquer, de s'informer et de s'amuser. Nous allons vous parler de leurs avantages puis de leurs risques. Avec eux, on peut communiquer avec la famille ou les amis, travailler, rester en contact et s'informer comme à propos de la Covid. Cela peut aussi permettre de développer sa créativité en s'inventant une identité pour son profit. Les réseaux sociaux permettent également d'exprimer son opinion en laissant des commentaires et donc d'exercer son esprit critique. Enfin, ils permettent de partager nos connaissances ainsi que nos goûts. Mais attention, il n'y a pas que du positif dans les réseaux. Des dangers nous guettent, comme le cyberharcèlement ou encore l'addiction.
Premièrement, le cyberharcèlement, synonyme de cyberintimidation. Il s'agit d'un harcèlement, mais sur les réseaux sociaux. Le harcèlement, c'est avant tout une relation à trois. La victime, le harceleur et tous les témoins qui n'ont rien dit. C'est quand un élève se retrouve pris pour cible de façon répétée par d'autres élèves. Le cyberharcèlement peut donc entraîner des menaces, des insultes, des humiliations comme l'envoi de photos obscènes ou choquantes, des rumeurs ou des mises à l'écart. En 2019, plus de 40% des moins de 50 ans ont déjà subi des attaques répétées sur les chats en ligne, dont 22% des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Au moindre problème, il faut à tout prix en parler à ses parents ou à un adulte. Lui, il saura quoi faire, mais en prévention, il faut régler ses paramètres de confidentialité. On peut se faire aider par ses parents, réfléchir quand on publie, ainsi que respecter le droit à l'image et le droit à l'expression. Pas de photos sans l'autorisation des personnes, pas de propos injurieux, racistes.
Deuxièmement, l'addiction. L'addiction entraîne un besoin irrésistible d'utiliser Internet, par exemple les likes rendent très addictifs. Mais quelles sont ses conséquences ?
Elle a des conséquences tant au niveau personnel qu'au niveau scolaire ou professionnel. Au niveau personnel, l'addiction se manifeste par l'isolement. Un individu dépendant des réseaux sociaux se coupe petit à petit de son cercle familial et amical. Il ne se socialise plus et préfère se connecter. Au niveau scolaire ou professionnel, il est souvent distrait et a du mal à se concentrer. La santé peut être aussi impactée par cette addiction. À force d'être rivés de longues heures sur les écrans, nos yeux peuvent par exemple se fatiguer, devenir rouges ou s'assécher.
Un petit conseil, si vous ne voulez pas paraître ridicule aux yeux des gens que vous croiserez dans la rue et qui regarderont vos yeux bizarrement, évitez de rester trop longtemps devant ces petits écrans noirs. Passer trop de temps devant les écrans à scruter les réseaux sociaux peut aussi entraîner des maux de tête et des troubles de sommeil.
Mais comment éviter l'addiction aux réseaux sociaux ?
Les réseaux peuvent être utilisés de manière raisonnable. Pour les adolescents et les plus jeunes, Les parents doivent imposer des limites qui devront donc être respectées. Selon les spécialistes, 1 heure et demie de connexion quotidienne au réseau est largement suffisante. Il faut donc limiter le temps et les horaires de connexion, maintenir les liens sociaux avec les autres et les relations interpersonnelles, ainsi que pratiquer d'autres activités comme le sport, les balades, les sorties ou encore la lecture.
Pour finir, quelques chiffres sur l'utilisation des réseaux chez les jeunes.
Cette année,
82% des jeunes de moins de 18 ans ont utilisé Instagram,
74% ont utilisé Snapchat, 54% ont utilisé Facebook,
39% ont utilisé Twitter
et 38% ont utilisé TikTok.
Nous avons interrogé quelques élèves sur leur pratique des réseaux sociaux. Combien de temps penses-tu passer sur les réseaux sociaux chaque jour ?
Je passe environ 1h30 sur les réseaux sociaux par jour. Voilà.
Moi, je pense je passe à peu près 2h à peu près. Parce que quand je commence, je ne sais pas comment m'arrêter. Du coup, je continue. Et puis bon, quand je me sens fatiguée, j'arrête.
À peu près 2-3 heures, je pense.
Moi, à peu près 8 heures dessus.
1h à 2h.
En semaine, je pense que c'est à peu près 2-3 heures. Et sinon, pendant les week-ends ou les vacances, 8-10 heures.
30 ou 45 minutes.
1 heure.
Pendant la semaine, moi, 1 heure. Et sinon, pendant les vacances, pendant les week-ends, 2 heures.
Penses-tu être accro aux réseaux sociaux ?
Un peu, oui, un peu. Parce que par exemple, je vais sur TikTok, je regarde une vidéo et puis après, ça va continuer. Et puis bon, voilà.
Je pense pas. Quand je me limite, ça va être limité en fait. C'est 1 heure, 1h30, ça va vite. Hein.
Penses-tu être accro aux réseaux sociaux ?
Je sais pas.
Pas du tout. Non.
En vrai, ouais, je pense.
Moi aussi, je pense.
Un peu. Sur quels réseaux sociaux es-tu ?
Moi, je suis sur Insta et Snapchat, mais Snapchat, je l'utilise vraiment pour les photos, pour envoyer les photos, comme je peux pas en envoyer via mon téléphone. Et Insta, vraiment pour parler avec mes camarades, etc.
Moi, j'ai Snapchat, Instagram, TikTok et WhatsApp. Ces réseaux sociaux, c'est plus pour envoyer des messages et regarder des publications des autres.
TikTok, Instagram, Snap et WhatsApp.
Instagram uniquement.
Mes réseaux sociaux sont Snap, Insta, WhatsApp et TikTok.
Moi, c'est TikTok, WhatsApp et Snapchat.
Juste Instagram.
Que fais-tu sur les réseaux sociaux ?
Moi, sur les réseaux sociaux, j'envoie vraiment des photos ou même rarement je fais des stories ou même sur mon compte Instagram, on est très peu, donc voilà.
Sur les réseaux sociaux, j'ai plutôt, oui, envoyé des messages, enfin voilà, et voilà.
Je poste des photos, des vidéos, je discute et voilà.
Moi, je discute tout simplement.
Moi, je discute et je poste des vidéos.
J'envoie juste des messages.
Moi, je discute avec mes potes.
As-tu déjà été confronté à un genre de cyberharcèlement ?
Pour ma part, non, je pense pas.
Non, moi non plus, j'ai pas rencontré de harcèlement.
Non.
Moi non plus, jamais.
Non, moi non plus.
Non.
Je dirais pas que c'est du harcèlement, mais j'ai eu des gens un peu louches qui me contactaient.
Et d'ailleurs, Suzanne, tu ne voudrais pas savoir combien de temps Élise passe sur les réseaux sociaux ?
C'est vrai, ça. Combien de temps penses-tu passer sur les réseaux chaque jour ?
Eh bien, c'est compliqué, j'arrive pas trop à savoir. J'en passe du temps. Alors après, je passe aussi du temps sur les réseaux sociaux pour le travail, en fait. Parce que comme je travaille avec des ados, eh bien, ça m'arrive quand même d'y aller pour le travail. Déjà, c'est important de savoir ce que c'est et comment ça fonctionne. Mais je dirais au plus d'une heure par jour, ça c'est sûr, parce que entre tous. Après, je publie aussi pour la radio. Et puis aussi, vous en avez parlé, hein, parce qu'il faut faire évidemment très attention sur les réseaux sociaux, mais ça permet aussi d'avoir des infos importantes. J'utilise aussi les réseaux sociaux des fois pour avoir des informations. Ça se voit surtout, je trouve, sur le local. C'est des fois très pratique pour savoir des choses. Donc voilà, mais plus d'une heure par jour. C'est pas bien, hein, je sais, mais je fais attention, promis. Et vous, vous utilisez quoi comme réseaux sociaux ?
Moi, j'utilise WhatsApp, c'est un pour des messages.
Pour communiquer, mais c'est plus interne en fait. Oui. C'est moins ouvert et plus sécurisant.
Oui.
D'accord. Et autrement, pas de réseau. Et en même temps, vous n'avez pas forcément l'âge, parce qu'on rappelle aussi que normalement, la plupart des réseaux sociaux, c'est à partir de 13 ans.
Oui.
Voilà, on peut le rappeler.
Il n'y a pas tout le monde qui les respecte.
Ça, c'est sûr. Il y en a même beaucoup qui ne le respectent pas, effectivement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup les filles de nous avoir rappelé qu'il fallait être prudent en utilisant ces réseaux. Nous, on fait une courte pause dans la tribu et on se retrouve dans un instant avec Benny et Yuna et leur invité.
Tout le monde, il fait seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh, je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, où j'oublie tout et je m'en vais. Yeah, moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. Fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. À ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents.
Merci d'écouter La Tribu.
Toujours dans La Tribu, toujours avec la classe de 6e Kézako du collège Albert Vinçon, et Benny et Yuna m'ont rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui.
Oui, alors, bah, vous faites tout en duo, c'est parfait. Alors vous n'êtes pas seule, vous avez une invitée. Je vous laisse le soin de nous la présenter.
Il y a quelques jours, le 19 mai, les cinémas ont pu réouvrir après une fermeture de plus de 6 mois depuis octobre. Nous avons voulu à cette occasion en savoir plus sur les conséquences de ce confinement forcé. Nous avons donc invité Madame Avignon, directrice du Cinéville à Saint-Nazaire. Bonjour Madame Avignon.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ?
Eh ben on est super content, hein. On est super content, on attendait cette date avec impatience. Les équipes, les clients, on est très heureux de revoir les clients dans un cinéma, que le cinéma revive. C'est très très agréable.
Pouvez-vous nous expliquer quelles conséquences a eu ce confinement pour votre activité ?
Alors là, on était carrément à plat, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'activité. On avait des frais de fonctionnement, mais on n'avait pas de frais. Voilà, on est un commerce, hein, où, et on n'avait rien, en fait, donc le néant. Il y avait quelques personnes qui travaillaient quand même pendant le confinement pour maintenir les cabines de projection en place. On a fait aussi quelques travaux au niveau du bâtiment, mais sinon c'était le néant.
Avez-vous perdu beaucoup d'argent ?
Alors, on a perdu forcément un peu d'argent parce que forcément il y avait des frais. Les frais continuent à être présents. Maintenant, on ne va pas se cacher, l'État a été un vrai soutien pour cette branche, voilà, pour le cinéma.
Ah oui, avez-vous bénéficié d'aide de l'État ?
Oui, on a vraiment bien bénéficié d'aide de l'État et encore maintenant, voilà. Chômage partiel pour le personnel, perte d'activité, donc voilà, des aides importantes pour qu'on puisse continuer à vivre et rester ouvert, parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas eu cette chance et des cinémas font faillite.
Les films qui ont dû sortir pendant le confinement vont-ils quand même sortir ? Dans quelles conditions ?
Ah, ils vont sortir, il y a du monde, hein. Il y a 400 films, environ 400 films qui attendent d'avoir une place dans une salle de cinéma. Donc ça va être la guéguerre un petit peu, hein. Ça va un peu être l'embouteillage, mais ils vont sortir, oui.
quels sont les nouveaux protocoles sanitaires mis en place ?
Alors, du 19 mai, donc de mercredi dernier jusqu'au 8 juin, on a une jauge, c'est-à-dire le nombre de places autorisées à vendre dans une salle, à 35%. Il y a deux sièges entre deux personnes et pas de vente de confiserie. Et le port du masque du début jusqu'à la fin.
Vous me connaissez, j'ai toujours des questions en plus, je suis très curieuse. C'est mon gros défaut, hein, je suis très très curieuse. On parlait de tous ces films qui vont arriver là, les 400. Là, dans ceux qui sont à l'affiche en ce moment ou dans les prochaines semaines, il y en a un que vous attendez particulièrement ? C'est histoire de savoir quoi aller voir, nous. Hein,
Ah, moi, franchement, j'ai eu la chance de voir OSS 117 en avant-première, qui sort au mois d'août. Et vraiment, j'ai bien rigolé.
D'accord,
voilà,
donc
très très frais. Et voilà.
Au mois d'août, on peut déjà mettre une croix dans.
Ouais,
la...
mettez une croix et franchement, voilà, très léger et sympathique à Dujardin, comme il se doit.
Super. Et un film peut-être très ado là qui arrive, qui pourrait plaire cette tranche d'âge.
Là, il y a Demon Silver. Je pense que les enfants, enfin, c'est un film animé de manga. Donc là, qui est sorti mercredi dernier et qui cartonne.
D'accord. Bon, et ben comme ça, on sait quoi aller voir. C'est quand même toujours mieux, non ?
Bah, on attend la pluie, nous. Hein. Au mois de juillet, août, il faut qu'il pleuve. Non, je plaisante, mais ouais, un peu quand même.
On a mis du temps à voir les cinémas, mais on va mettre du temps aussi à voir le beau temps. Donc, si on pouvait...
midi. Ouais. Chacun choisit.
On peut aussi aller au cinéma pour éviter la canicule. Hein. Ça marche aussi.
Tout
hein,
à fait. Et on peut faire les deux, quoi. On peut sortir et aller au cinéma.
C'est ça, voilà. Et moi, j'avais encore une autre question. Est-ce que, parce que là, on a parlé un peu des employés pour qui, j'imagine, ça a été compliqué. Mais est-ce que vous avez aussi des retours des gens qui viennent habituellement au cinéma ? Est-ce que vous avez pu savoir un petit peu comment on le vivait, nous, sans cinéma ?
Alors, on a fait au mois de mars une action, on a demandé à nos spectateurs de nous écrire, savoir comment ils vivaient le manque de cinéma. J'ai ouvert pendant 48 heures la possibilité de nous écrire. J'ai eu plus de 150 messages que nous avons réécrits sur des revers d'affiches de cinéma et nous avons affiché sur les vitres du Cinéville. Que des messages d'amour, voilà, c'était comme quoi ça ne manquait, que la culture était indispensable, comme on n'a pas voulu nous faire croire pendant un moment, voilà, c'était donc on était super contents et mercredi, j'avoue que c'est moi qui ai ouvert les portes du cinéma, et trop bien quoi.
Un bien fou. Et ça s'est bien passé, c'est-à-dire il n'y a pas eu des couacs parce que finalement, fallait un peu se retrouver le rythme, non ?
Eh bien non.
Tout parfait.
Voilà, tout parfait.
Tout le monde était tellement heureux de revenir que bah voilà.
Voilà, non, les bonnes ondes étaient là.
Et bah parfait.
Merci. Madame Avignon d'avoir accepté notre invitation et nous invitons tous les Nazériens et Nazériennes de se rendre dans les salles obscures. Le cinéma, c'est la vie.
Et oui, merci beaucoup.
Et oui, le cinéma, c'est la vie et c'est pour ça qu'on va continuer d'en parler avec Nino et Lilijane.
Bonjour, lors de la première émission de radio, je vous avais parlé de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, avec Lilijane, nous continuons avec les effets spéciaux au cinéma. Des effets spéciaux, mais pourquoi faire ? Cette question semble aberrante. En effet, des effets spéciaux pour créer des mondes fantastiques, pour faire des voyages dans le temps et pour faire la connaissance de personnages extraordinaires. Cela fait plus d'un siècle que l'on utilise des effets spéciaux. Les premiers réalisateurs comme Méliès utilisaient des trucages ingénieux. Par exemple, pour des décors grandioses, ils fabriquaient des maquettes, miniatures en carton, pâte ou encore en peignant une image sur une vitre.
Or, depuis une vingtaine d'années, sont apparus les effets spéciaux numériques. Souvent, les réalisateurs utilisent la technique du fond bleu ou vert qui permet d'incruster une image numérique dans une autre. Allons maintenant dans le château de Poudlard, jouer au Quidditch avec notre ami Harry Potter. Des balais magiques qui sont des machines animées, le nez de Voldemort recréé en 3D ou encore une modélisation 3D pour l'effet fantôme des détraqueurs. Aujourd'hui, les effets spéciaux numériques sont omniprésents au cinéma. La plus grande difficulté étant le visage humain et l'expression des émotions. Ce pas est en train d'être franchi, comme l'a montré l'épisode Rogue One de la saga Star Wars, dont les traits du visage de Peter Cushing, qui était mort, ont remplacé le visage de Guy Henry, qui jouait le rôle de Willef Tarkings, Grand Moff.
Les effets spéciaux ont donc encore de beaux jours devant eux au cinéma.
Et oui, de beaux jours. Et alors, cette passion du cinéma, toi, tu dois être ravie d'avoir Séverine Avignon. J'imagine que tu vas régulièrement au cinéma, toi, Nino.
Bah oui, ça va.
T'essayes?
Oui, bah quand il y a des films qui me plaisent.
Et alors là, il y en a un qui te plaît là, qui arrive bientôt?
Bah j'ai pas trop regardé.
T'as pas trop regardé. Bon, et alors bah Séverine Avignon, moi je suis obligée, vous êtes encore là, de vous demander les effets spéciaux au cinéma. Vous, il y a un film qui vous a particulièrement marqué avec des effets spéciaux que vous avez trouvé formidables ou deux, hein. On peut aller à deux films, hein.
C'est pas forcément une image d'un des films, c'est ce que là ce que vous disiez, ça va hyper vite au niveau de technologie. Il faut savoir que maintenant on utilise cette façon de faire pour filmer, pas que pour faire des effets spéciaux. Voilà, on va l'utiliser pour éviter de faire un tournage de nuit. On va l'éviter pour aller très très loin, qui va faire que le film va être plus cher. Donc voilà, c'est une méthode qui est de plus en plus développée et que certains réalisateurs qu'on ne pensait pas l'utilisent fortement.
D'accord, donc voilà. Les effets spéciaux, même finalement quand on ne les voit pas, ils sont là quand même.
Tout à fait.
D'accord, et ben merci, on en aura appris comme ça beaucoup plus. Ça nous permet des fois aussi de déguiser notre œil critique quand on va au cinéma. Bah, ça m'a donné envie d'aller au cinéma, tout ça.
Bon, tout à l'heure.
Et ben voilà, à tout à l'heure. Merci à vous. Nous, on fait une courte pause dans la tribu et nous n'avons pas le choix, à ce moment très précis de l'émission, que de lancer une musique de film.
Bah, pourquoi pas, hein.
De retour dans la tribu pour la troisième émission de la classe de 6e Kezako du collège Albert Vincent. Et cette fois, ce sont Liam et Enzo qui sont à mes côtés. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez choisi de nous parler d'un sujet ô combien d'actualité.
Aujourd'hui, avec mon camarade Enzo, nous allons vous parler de l'impact des masques sur les jeunes enfants.
Certains jeunes enfants passent parfois près de 50 heures par semaine en crèche ou autre structure d'accueil collectif. Comment vivre avec un masque dans cette condition ?
Ainsi, dans les lieux collectifs, les adultes et les enfants sont obligés de porter le masque à partir de 6 ans. Comment apprendre à communiquer quand on ne voit pas la bouche ? Comment ne pas être davantage fatigué ? Comment bien interpréter les expressions du visage ? Mon maître est-il fâché ou est-il ébloui par le soleil ?
Les adultes rencontrent eux aussi des difficultés, car le masque dresse une sorte de barrière entre eux et les enfants. Comment savoir quel enfant est en train de bavarder ?
Un jour, j'étais en train de me balader avec mes parents et mes amis. Et là, une jeune enfant m'a fait un coucou de la main. Je ne l'ai malheureusement pas reconnue du fait de son masque.
Une fois, en cours, nous étudions la liberté d'expression et je parlais. Mais Madame Tolly voulait nous montrer ce que signifie voler la liberté d'expression à quelqu'un. Donc, elle nous a fait une blague pour montrer ce que cela signifie. Mais à cause du masque, je ne voyais pas son expression. Et donc, ce jour-là, j'ai eu très peur.
Certes, le masque a un impact négatif.
Mais nous devons malgré tout appliquer les gestes barrières pour sortir de cette pandémie.
Et oui, c'est important de le rappeler. Place maintenant à Lucia et Marie qui vont elles aussi nous parler d'un sujet, hélas, tristement d'actualité.
Bonjour, aujourd'hui nous voudrions vous parler d'un sujet que nous avions étudié en histoire-géographie. Actuellement dans le monde, je suis choquée de devoir vous dire que 12 millions d'enfants dans le monde sont sans abri. Comme par exemple 445 000 au Bangladesh. Ces enfants sont dans la rue à cause de la pauvreté ou de relations difficiles avec leur famille. Ces enfants des rues risquent d'être abusés, violentés et de connaître le travail forcé, l'exploitation sexuelle et d'attraper de graves maladies. Attention, ce problème touche à la fois les pays pauvres mais également les pays développés comme la France qui comptait plus de 31 000 enfants sans abri en 2015. Toutefois, des associations aident ces enfants, comme SOS Village et Urgence Éducation. Je trouve ces situations tellement injustes. Les enfants du monde entier devraient être comme nous, en train de s'amuser, de rire, de jouer ou d'étudier, comme le prévoit la Convention internationale des droits de l'enfant rédigée en 1989. Il faut donc, à mon avis, se battre pour plus d'égalité et soutenir ces associations.
Des millions d'enfants sont aussi affectés par la guerre et les conflits armés. On estime qu'un enfant sur cinq vit aujourd'hui dans des zones de conflit. Le triste palmarès des pays en guerre où les enfants sont touchés est l'Afghanistan, le Soudan du Sud, le Yémen et la Syrie. Séparés de leur famille, orphelins, mutilés, ils assistent malgré eux aux pires violences. Ils subissent de graves blessures ou sont tués. Les enlèvements, les viols et l'exploitation des enfants comme soldats font partie des atrocités qui accompagnent la plupart des guerres. Ces enfants restent traumatisés physiquement et psychologiquement à vie. Des associations comme l'UNICEF se battent chaque jour pour défendre le droit des enfants, les soigner, leur permettre d'aller à l'école et de vivre en sécurité malgré la guerre.
Merci Marie et Lucia de nous avoir rappelé cette dure réalité. Et est-ce que je peux me permettre de vous demander ce qui vous a donné envie de parler de ce sujet ?
On avait étudié ça en histoire géo et ça nous a beaucoup touchés. Et j'ai voulu en parler parce que c'est important.
Et toi, Lucia ?
Et tout le monde n'est pas forcément au courant de ça. Il y a des gens qui s'en fichent un peu. C'est bien de le rappeler.
Effectivement, c'est bien de le rappeler. Et ça fait d'ailleurs aussi écho à ce que vous venez de dire et aux associations qui se battent pour que des enfants puissent aller à l'école. Avant que vous en parliez, on n'en doutait évidemment pas, mais ça permet encore de rappeler l'importance de pouvoir aller à l'école parce que vous en avez parlé au collège et ça vous a donné envie d'en parler. C'est une belle ouverture sur le monde. Et l'ouverture sur le monde, c'est une belle transition pour accueillir Maxime et Paulina et leur invité.
Bonjour, comme nous voulons de l'entendre, les droits humains ne sont pas toujours respectés à travers le monde et nous avons eu envie de mettre en avant des personnes qui s'engagent dans ce combat.
Nous avons demandé à Armand Fugère de venir nous parler d'Amnesty International et de l'antenne jeune qui a vu récemment le jour à Saint-Nazaire.
Bonjour Armand, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, moi c'est Armand, je suis en classe de terminale au lycée expérimental. Et je suis responsable de l'antenne jeune de Saint-Nazaire.
Pourriez-vous nous présenter Amnesty International ?
Amnesty International, c'est une ONG, donc organisation non gouvernementale, qui défend les droits humains et les défenseurs des droits humains, et qui est engagée partout dans ce combat pour le respect des droits humains tout autour du globe.
Quel est le but de cette antenne jeune ?
L'objectif de l'antenne jeune, c'est d'avoir des actions concrètes sur le terrain qui permettent d'alerter l'opinion publique, donc de montrer aux gens les différents combats, les différentes situations, et de faire, par exemple, signer des pétitions ou ce genre d'action, du plaidoyer, ce qu'on appelle du plaidoyer, donc aller convaincre des élus, par exemple. Et à travers ces actions, l'objectif, c'est de faire changer les choses.
Comment avez-vous eu l'idée de la créer ?
Je me suis d'abord rapproché du groupe local, qui sont constitués d'adultes, d'adultes de plus de 25 ans. Et après ça, j'ai eu l'occasion d'aller à Paris, dans des rassemblements d'Amnesty International, dont le week-end des antennes jeunes. Et donc, à partir de là, on m'a proposé de monter une antenne jeune à Saint-Nazaire, ce que j'ai fait.
Combien de jeunes ont rejoint cette antenne ?
Pour l'instant, 3-4. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à se motiver pour faire des actions. C'est pas hyper simple, en plus avec les épreuves de bac qui vont arriver pour nous, parce que on est tous des lycéens. C'est vrai qu'on n'est pas très actifs en ce moment. On a fait quand même une action il n'y a pas très très longtemps, mais on a eu du mal à se lancer.
Comment faire pour y adhérer ?
Il suffit de venir nous voir, ou on a un compte Instagram et une boîte mail. Et il suffit de nous envoyer un mail ou de nous contacter via Instagram.
Quels sont vos objectifs pour les prochains mois ?
Pour les prochains mois, ça va être un petit peu compliqué avec les épreuves de bac justement pour nous. Mais l'idée, ça va être surtout de faire une passation, de passer aux prochains prochaines personnes qui vont arriver, parce qu'on est plusieurs terminales, et donc on va partir après sûrement dans d'autres villes. Donc l'idée, c'est plus de préparer quelque chose pour les prochaines personnes qui pourraient venir s'y investir.
Alors c'est une habitude, hein, ils vont pas être surpris, Paulina et Maxime, j'ai toujours des questions en plus moi. Alors on a parlé un petit peu de la création de l'antenne jeune. Qu'est-ce qui vous personnellement vous a donné envie de vous investir dans une association, et en plus et particulièrement dans Amnesty International ? Ça a été quoi le déclic ? Pourquoi ?
Bien, je me souviens plus exactement, mais ce que je me souviens, c'est que je me suis engagé au conseil de vie lycéenne et tout ça, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller et d'y être du coup élu pour le coup. Et à travers ces instances, j'ai découvert du coup l'engagement lycéen. Et après, j'ai découvert Amnesty International, où j'ai trouvé que les valeurs que ce mouvement portait me correspondait le mieux par rapport à d'autres associations.
Et on a parlé de l'antenne locale, alors l'antenne moins jeune, même si il y a des jeunes, et puis de toute façon, voilà. Et comment ils ont vu l'arrivée d'une antenne jeune ? J'imagine qu'ils étaient plutôt contents de voir qu'il y avait de la relève et qu'il y avait du monde sur ce mouvement.
C'était... Ils nous ont très bien accueillis et ils étaient très contents d'avoir un peu de jeunes qui arrivent. Après, c'est vrai qu'on est on n'est pas nombreux et on a du mal à lancer le mouvement quand même, mais on essaye.
Et puis ça va venir. Après, c'est tout nouveau aussi.
Oui.
Ça peut pas il faut laisser le temps au temps. J'ai encore une question. Ça vous fait quoi ? Alors ils sont pas beaucoup plus jeunes que vous, mais quand même de voir là on a entendu Marie et Lucia qui nous parlait du droit des enfants et que ça les avait touchés et qu'elles avaient vraiment envie d'en parler, de voir comme ça des jeunes si jeunes avoir déjà envie de s'engager, parce que c'est déjà un engagement de choisir ça comme sujet et d'en parler à la radio.
Bah, c'est super cool. Et je pense qu'on n'a pas... On n'a pas l'occasion de voir beaucoup de jeunes et de collégiens, surtout d'engager dans ces problématiques-là. Et je pense que c'est important que dès le collège, on commence à parler de ces sujets qui sont assez importants.
Merci Armand d'avoir répondu à nos questions.
Et oui, merci beaucoup et merci à Maxime et Paulina. Et pour le temps d'une courte pause, on retrouvait Wayne Baptiste et Tom pour leurs conseils culturels.
Combien de fois faut-il le redire avec style? Ils ont tous le droit de dire non. Non, 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 parce qu'il ne faut pas se taire. Pour grandir. Non, s'ils n'ont pas envie parfois
de faire ci, de faire ça, même s'ils n'ont pas le choix, ils ont tous le droit de dire non. Non, 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 parce qu'il ne faut pas se taire.
La tribu, ça se dit dans ton collège.
Toujours en compagnie de la 6e Kézako dans la tribu et on va maintenant faire le plein de culture avec les conseils avisés d'Ewen, Baptiste et Tom. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et on commence avec un livre, n'est-ce pas Ewen?
Bah oui.
Et ben c'est parti.
Bonjour, après Marie et Lucia qui vous ont parlé de la condition difficile des enfants dans le monde, je vais vous présenter un enfant qui a connu la guerre et qui nous la raconte dans un livre intitulé « Le chemin parcouru ». C'est une autobiographie d'Ismaël Béa, éditée par la Presse de la Cité en 2008. Ce livre est le témoignage fort d'un enfant soldat, Ismaël, qui à 12 ans a dû fuir la guerre civile qui faisait rage dans son pays, le Sierra Leone. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est situé entre la Guinée et le Libéria. Cette guerre civile a eu lieu à cause d'un trafic de diamants bruts. Après de nombreux mois d'errance, Ismaël est tombé aux mains de l'armée du Sierra Leone, qui l'a obligé à se battre contre les rebelles. Lorsqu'il est enrôlé, il fait des choses affreuses comme brûler des villages ou massacrer des civils et des rebelles. Il dit aussi qu'on obligeait les soldats à consommer de la drogue pour les rendre impitoyables et pour leur enlever toute émotion. Il regardait tous les soirs des films de guerre comme Rambo, en fumant de la marijuana ou en sniffant d'autres drogues. J'ai bien aimé ce livre car on découvre que les enfants d'autres pays n'ont pas le même quotidien que nous. J'ai aussi appris que de nombreuses choses, comme par exemple le conflit au Sierra Leone, malgré certains passages tristes et durs, tels que le massacre de sa famille, ce livre m'a plu et je pense que quelqu'un de non impliqué dans le conflit n'aurait pas pu écrire ce livre aussi bien.
Et quelqu'un qui ne l'aurait pas lu n'aurait pas pu nous en parler aussi bien. Merci Ewen pour ce conseil. Et du côté du cinéma, c'est Baptiste qu'on retrouve. Et alors qu'est-ce que tu nous proposes de regarder, Baptiste?
Pour cette 3e émission de radio, je vous propose de regarder le film 300. Ce film est sorti en 2006 et a été réalisé par Snack Snyder, un Américain. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voici un petit résumé de l'intrigue. Nous sommes en moins 480 avant Jésus-Christ. Xerxès succède à Darius Ier sur le trône de l'Empire Perse. Les Perses déclarent la guerre avec une légion. À Sparte, Léonidas décide de les arrêter dans la Thermopyle. Il part avec 300 Spartiates. C'est de là que vient le nom du film. En chemin, il recrute 1800 autres Grecs. À la première bataille, il repousse les Perses, car Léonidas avait bien choisi le champ de bataille. En voyant le nombre des Perses, les 1800 Grecs prirent peur et fuirent. Les Spartiates ont dû se battre contre une légion les plus féroces des Perses, qui sont les Immortels. Je ne vous en dis pas plus, car sinon vous n'aurez plus envie de le regarder. Les rôles principaux sont tenus par Gerard Butler, qui joue le rôle de Léonidas Ier, roi spartiate. Rodrigo Santoro joue le rôle de Xerxès Ier. Elena Hunday, qui joue le rôle de reine Cargo, reine de Sparte et femme de Léonidas Ier. J'ai bien aimé ce film car il y a de l'action et aussi parce que tu apprends plein de choses. Mais attention, tout n'est pas vrai. Je vous conseille vraiment de regarder ce film car il est fantastique.
Et ça tombe bien car je ne l'ai pas vu, donc je sais quoi faire lors du prochain week-end pluvieux. Même s'il faut bien le dire, hein, pour les gens qui ne sont pas de Saint-Nazaire et qui nous écoutent peut-être à l'autre bout du monde sur Internet, les week-ends pluvieux ici, c'est très très rare. Par contre, même à l'autre bout du monde... Je vois pas pourquoi il y en a qui sourient, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça n'arrive jamais à Saint-Nazaire la pluie. Non,
non,
jamais, on est d'accord. Par contre, à l'autre bout du monde, ils en ont forcément entendu parler du jeu que Tom va nous présenter, ou alors c'est incompréhensible.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu très peu connu qui s'appelle Fortnite. Le jeu est sorti en 2011 sous la forme d'un mode histoire. C'était une aventure solo ou en coopération se nommant Fortnite Sauver le Monde. Epic Games, le créateur américain, avait peur que Sauver le Monde soit un échec. Et en 2017... il décide alors de créer son propre Battle Royale. Le principe est simple. 100 joueurs se parachutent sur une île grâce à un bus volant. Ils cherchent des armes, s'affrontent. Pendant ce temps, une tempête rétrécit la zone de jeu et le dernier survivant gagne la partie. C'est le succès immédiat et aujourd'hui, 350 millions de joueurs y jouent. Il existe des compétitions pour gagner des récompenses. Ce jeu est gratuit, mais certains contenus sont payants, comme acheter des skins, ce sont des personnages ou des tenues. Le mode de jeu Sauver le Monde est également payant. Il est obligatoire d'avoir une connexion Internet. Des mises à jour sont faites régulièrement. J'aime ce jeu parce qu'il faut construire des stratégies et garder son sang-froid. Bref, Fortnite est un formidable jeu. Je vous le conseille et rendez-vous dans le bus pour une prochaine partie.
Le rendez-vous est pris, mais ça risque d'être un rendez-vous très court pour ma part. Je pense que mon espérance de survie dans ce jeu se compte en secondes. Allez, on va prendre un peu de hauteur maintenant, et pas dans un bus, mais sur un édifice que l'on connaît toutes et tous très bien. Et c'est Inès qui nous en parle.
Bonjour, êtes-vous déjà allé visiter la Tour Eiffel ? J'avais envie de vous parler de ce monument, symbole de Paris et de la France. Elle a été construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 et devait être démontée 20 ans après. Les travaux ont duré 2 ans. Les ouvriers ont eu besoin de 18 000 pièces, 7600 tonnes de fer et 60 tonnes de peinture. Haute de 324 mètres et accessible grâce à 5 ascenseurs, elle a d'abord pris le nom de Tour de 300 mètres, puis peu après celui de son inventeur Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, qui ne voulait pas que la Tour Eiffel soit démontée, a installé une station météorologique, puis un émetteur de radio, qui sera d'ailleurs essentiel pour capter les messages allemands pendant la Première Guerre mondiale. Elle sert encore aujourd'hui d'émetteur de programmes radio et télé, ainsi une antenne se dresse en haut de cette belle dame de fer. Surtout allez la visiter, comme les 7 millions de visiteurs chaque année. Au premier étage de la Tour Eiffel, il y a même un restaurant qui vous attend.
Et alors, excellent choix de chronique, Inès, hein, pour une classe média qui travaille sur la radio, puisque cette année 2021 marque les 100 ans de la radio. Et la première émission de radio en France pour du public a été réalisée le 24 décembre 1921 sur Radio Tour Eiffel. Tu ne pouvais pas mieux tomber, hein, franchement, c'était parfait. Voilà, 100 ans après, la boucle est bouclée. Et merci, Inès, de nous permettre de souhaiter un très bon anniversaire à toutes les radios. Elles sont près de 900 en France et 44 000 à travers le monde. Et dans le monde, justement, il n'y a pas que les radios qui sont merveilleuses, n'est-ce pas Aristide et Chana ?
Oui. Oui. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 7 merveilles du monde moderne. Si pour cette émission, nous abordons les merveilles modernes, c'est par rapport à l'émission numéro 2, durant laquelle Baptiste et Suzanne vous ont présenté les merveilles du monde antique. Pour commencer, partons au Brésil danser la samba. Non. Observez le Christ Rédempteur, statue de 30 mètres de haut, qui se dresse dans la ville de Rio de Janeiro. 5 ans de travaux et en 1931, le tour est joué. Restons en Amérique, mais direction le Pérou, dans la cordillère des Andes. Admirons maintenant le Machu Picchu, qui est une ancienne cité inca datée du 15e siècle. C'est aujourd'hui un site archéologique et touristique qui accueille environ 1,2 million de visiteurs par an. Remontons un peu plus au nord, en route pour le Mexique. Chichen Itza est un ancien centre religieux maya construit autour de 5 puits naturels. L'eau était déjà un bien précieux dans cette région. Petite traversée de l'Atlantique, passage par le détroit de Gibraltar, croisière sur la Méditerranée avant d'arriver en Italie, dans la ville de Rome, pour s'émerveiller devant le Colisée. La construction de cet édifice s'est achevée en l'an 80 après 10 ans de travaux. Ainsi, le Colisée de Rome était une arène qui pouvait accueillir 50 000 spectateurs pour vivre des jeux du cirque comme les combats de gladiateurs.
Maintenant, partons pour l'Asie, faire quelques pas sur la célèbre muraille de Chine qui traverse tout le pays, la Corée et le désert de Gobi. Au total, 21 198 km construits sous le règne du premier empereur chinois Qianxiang. L'objectif était de protéger la frontière nord du pays et la construction de cette fortification s'étendra sur plus de 2000 ans. Partons ensuite découvrir la Jordanie et plus précisément le site archéologique de Petra, découvert en 1812. Il renferme tombeaux et temples taillés dans les falaises de grès rose, d'où il tient le surnom de ville rose. Petra a été fondée 300 avant Jésus-Christ et était la capitale du royaume nabatéen. Notre dernier voyage nous emmène en Inde, visiter le Taj Mahal, un mausolée hors du commun, construit à partir de 1621 sur ordre de l'empereur moghol Shah Jahan. Tout en marbre blanc, il perpétue le souvenir de son épouse favorite morte en accouchant de leur 14e enfant. J'espère que ce petit tour des merveilles du monde complétera la découverte des merveilles antiques.
Merci beaucoup à vous deux de nous avoir fait prendre l'air et voyager, le tout sans empreinte carbone, ce qui devrait plaire à Jamilie et Sarah qui nous rejoignent juste après une pause musicale pour nous parler de réchauffement climatique.
On se connaît pas, qu'est-ce que tu tiens? J't'écoute parler, j'entends rien. J't'ai jamais vu, j'te kiffe bien. Bla 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 bla. On se connaît pas, qu'est-ce que tu deviens? J't'écoute parler, j'entends rien. J't'ai jamais vu, j'te kiffe bien. Bla 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 bla.
Ok, gilet noir, logo Protector.
Déjà collector.
Lunettes noires sous le projecteur.
On en fait des tonnes.
J'te connais pas, tu m'envoies des fleurs.
Elles sont inodores.
Dès le départ, nous c'est mort avant l'heure.
Comme la vidéo d'or. Petit fourré, vos pachas. Faux sourire et cachassa. La bise à machin, machi.
C'est soirée.
Wachi, wacha.
Tu strass et des
côtés fragiles.
Tu lâches et de
vacherie facile.
Des flashs et des
stars à suivre.
On s'y croirait.
Mais c'est pas ça.
Sous les menaces.
Parce qu'il faut se mêler.
Sous la menace.
D'être ce qu'on aimait.
On part à dos pas la brume.
Sous le feu.
La carte, on l'a pas, mais non.
Joue le jeu. À la recherche de.
Tu peux péter.
D'une recette d'un.
Tu peux t'éter.
Le bon goût des pas.
Toujours au menu.
Du coup, le repas.
Comme on est venu.
Gilet noir, logo, brodé or.
Déjà collector.
Lunettes noires sous les projecteurs.
On en fait des tonnes.
Je te connais pas, tu m'envoies des fleurs.
Elles sont inodores.
Dès le départ, nous aimons avant l'heure.
Comme la vie d'odeur.
On se connaît pas, qu'est-ce que tu deviens? J't'écoute parler, j'entends rien. J't'ai jamais vu, j'te kiffe bien. Bla 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 bla.
On se connaît pas, qu'est-ce que tu deviens? J't'écoute parler, j'entends rien. J't'ai jamais vu, j'te kiffe bien. Bla 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 bla.
La tribu, ça se dit dans ton collège?
La tribu, je suis en compagnie de Jamilie et Sarah de la classe de 6ème Kézako. Et Jamilie, toi, pour cette troisième émission, tu as fait le choix de nous parler de déforestation.
Bonjour, je vais vous parler de la déforestation de l'Amazonie. Les forêts et cours d'eau de l'Amazonie sont fragiles et menacés. La surface forestière diminue donc sans cesse depuis les années 1990. La déforestation est causée par des activités humaines comme l'exploitation minière, l'agriculture, l'exploitation du bois et l'urbanisation. Or, la déforestation entraîne la destruction des écosystèmes et l'habitat de nombreuses espèces animales. La déforestation entraîne également une pollution atmosphérique à cause de nuages de fumée. Et pourtant, la forêt amazonienne a un rôle essentiel sur Terre pour la régulation des climats, la richesse de la faune et de la flore et la qualité de l'atmosphère terrestre. La préservation de cette forêt est donc un enjeu pour l'humanité entière.
Merci beaucoup Jamilie, on change de continent mais on reste dans la même thématique avec Sarah.
Les ours polaires. Pourquoi les ours polaires? Un animal lointain. Il reste 25 000 ours polaires dans le monde,
Les ours polaires sont l'une des figures et victimes les plus emblématiques du réchauffement climatique qui touche le pôle Nord. Ils sont considérés comme espèces vulnérables depuis 2015. Ils risquent même de disparaître d'ici 2100 si rien n'est fait. Or, les ours polaires sont très bien adaptés au milieu arctique. Leur fourrure blanche les rend mimétiques, leurs oreilles de petite taille limitent la perte de chaleur et leurs larges pattes couvertes de poils et légèrement palmées leur permettent par ailleurs de marcher sur la neige fraîche sans s'enfoncer. Leur peau noire permet par ailleurs d'absorber la chaleur du soleil. La banquise est donc vitale aux ours polaires car c'est à la fois leur lieu de chasse, de repos et de reproduction. Or, à cause du réchauffement climatique, la surface de la banquise diminue d'environ 13,4% par décennie. La solution pour les protéger est d'arrêter de les chasser, mais surtout d'émettre moins de gaz à effet de serre et d'arrêter de favoriser le réchauffement climatique. Cette responsabilité revient à l'ensemble des pays, mais aussi à chacun et chacune d'entre nous.
Merci beaucoup Jamil et Sarah. Et voilà, c'est le moment à la fois attendu de cette émission, mais aussi celui qui est craint. Attendu parce que c'est notre rendez-vous habituel avec la chronique média, mais craint car c'est celui qui clôture et donc qui annonce la fin de cette émission. Et c'est bien pour ça qu'on va profiter à fond de ce moment avec Enzo et Achille.
Pour cette nouvelle chronique média, nous nous sommes intéressés aux images manipulées qui circulent beaucoup sur Internet et les réseaux sociaux. Elles représentent un réel danger puisqu'elles déforment la réalité et peuvent nous faire croire tout et son contraire. Je vais vous présenter les principales façons de manipuler une image. Et Achille vous expliquera les raisons et comment les reconnaître. Le plus courant est la retouche d'une photo. On enlève ou on rajoute un élément, un personnage qui n'était pas là au départ grâce à un logiciel de retouche comme Photoshop par exemple. On peut également manipuler une photo sans la modifier mais en jouant avec le cadrage. Par exemple, montrer un plan serré d'une photo peut complètement modifier le sens car on ne voit pas l'arrière-plan et le contexte. On modifie ainsi la perception de la réalité. Enfin, une photo peut être manipulée simplement en changeant la légende qui l'accompagne, ou bien en illustrant un événement qui n'a rien à voir avec cette photo.
Enzo vous a parlé de la manipulation des images. Je vais prendre le relais pour vous expliquer pourquoi les images peuvent être manipulées et modifiées. Il y a quatre raisons principales. Dans le but de convaincre, persuader une personne en lui faisant croire quelque chose qui n'existe pas. On appelle cela de la propagande. Dans le but de faire le buzz, c'est-à-dire rendre la photo plus attirante, spectaculaire, pour qu'un maximum de personnes en parlent. Dans un but humoristique, la photo est manipulée de manière exagérée pour faire rire. On utilise souvent le photomontage. Dans un but esthétique, le photographe retouche une ou plusieurs parties de la photo pour la rendre plus belle. L'exemple le plus courant est la retouche des images de mannequins dans les magazines de mode. Quand vous regardez sur Internet des photos ou des vidéos, posez-vous des questions avant de les partager à votre tour comme le ferait un journaliste. Quel est l'environnement où est prise cette photo ? Regardez les détails au second plan. La météo. Deux outils simples permettent aussi de remonter à la source et de savoir quand les photos sont-elles apparues sur Internet pour la première fois et sur quel site. Il s'agit de Tinaï et Google Images.
Merci beaucoup messieurs, et comme je vous l'avais annoncé, c'est la fin de ce troisième rendez-vous ensemble. Merci beaucoup à vos invités, Armand Fougère de l'antenne jeune d'Amnesty International Saint-Nazaire et Séverine Avignon, directrice du Cinéville de Saint-Nazaire. Merci à vos professeurs Séverine Lavalard et Mélanie Tolly qui ont fait en sorte que cette émission se fasse malgré le contexte pas toujours facile. Et merci et bravo encore une fois aux élèves de la 6e Kézako, Achille, Aristide, Arthur, Baptiste, Benny, Chanel, Charlotte, Enzo et Wen. Gabriel, Inès, Jamili, Liam, Lily, Jeanne, Lucia, Linette, Marie, Maxime, Nino, Paulina, Romane, Sarah, Shana, Suzanne, Tom et Yuna. Au revoir.
Au revoir.